Stammtisch, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.
Hello Cyril, hello Laurent, hello Stéphanie, bienvenue à la Stammtisch. Aucune surprise, je vous offre du gin de la victoire, parce qu'on n'a pas encore assez écoulé le stock cette saison. Qu'est-ce que je vous sers d'autre, Stéphanie ?
Des points, beaucoup de points.
Ça marche, je note des points. Laurent ?
Alors des buts, beaucoup de buts aussi, je crois que ça va
avec, hein,
ça va ensemble.
Ça joue des points, des buts, et Cyril ?
Alors pas de gin pour moi, mais juste une boisson isotonique pour tenir la distance en cette fin de saison.
C'est noté, j'arrive dans 5. La Stammtisch, saison 5, épisode 12, peut-être l'avant-dernier épisode de cette saison 5, on ne sait pas. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on est en compagnie de la coprésidente du HCBN, Stéphanie Meria. Salut Stéphanie.
Hello, bonsoir à tous.
Tu vas bien ?
Mais écoute, plutôt bien, plutôt bien.
Top, j'espère que ce sera toujours le cas dans une heure après toutes les questions des auditeurs et auditrices.
Mais c'est bien, s'ils ont des questions, c'est qu'ils ont des émotions et des envies pour ce club. Moi, ça me fait plaisir.
Exactement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
À le marketing.
On retrouve aussi autour de cette table, vous venez de l'entendre, à l'aile droite, l'ancien responsable de la rubrique sport du Journal du Jura, aujourd'hui rédacteur en chef, Laurent Kleissel. Salut Laurent.
Salut tout le monde.
Et à l'aile gauche, l'ancien attaquant du HCBN, aujourd'hui journaliste à Tamedia, Cyril. Salut Cyril.
Salut tout le monde.
Il y aura deux parties à cet épisode, c'est assez simple. La première partie, on parle de la situation actuelle, on est obligé, il ne reste plus que 5 rencontres de saison régulière. Et la deuxième partie, on va garder assez de temps pour ça, c'est toutes les questions des auditrices, des auditeurs. On va essayer d'en poser un maximum. Mais d'abord, on entre dans le vif du sujet. La situation à l'heure d'enregistrer ce podcast, bien 9e du classement avec 64 points, seulement 5 points d'avance sur la 13e et avant-dernière place. J'ai dit à l'heure d'enregistrer le podcast parce qu'on enregistre mercredi soir et mercredi soir, il y a le match entre Davos et Ambry. Ambry qui est à égalité avec Bienne, donc ça peut encore un peu évoluer. Mais bref, c'est ultra serré. Stéphanie, dans quel état d'esprit se trouve le conseil d'administration actuellement?
Je crois comme tous les spectateurs et tous les fans du HCBN, on est tendu. On sait que cette fin de saison va être hyper compliquée et puis un petit peu à l'image de toute la saison d'ailleurs. Donc on espère vraiment qu'ils retrouvent cet esprit et cet état d'esprit qu'on a vu contre Zurich et contre Genève, qui étaient quand même deux beaux matchs. On a vu une équipe qui avait une envie, qui avait de l'énergie et puis qui a réussi à gagner et puis à mettre des beaux matchs et qui a mis de l'émotion sur la glace. Je crois qu'on a vraiment tous besoin de ça. Il faut que ces 5 derniers matchs, on trouve ça. Et puis peut-être que l'avenir sera un petit peu moins tendu que ce qu'il est maintenant.
Cyril, Laurent, je vais faire un résumé, une minute chrono de ce qui s'est passé cette saison, parce que septembre, ça paraît déjà bien loin. On se rappelle quand même que l'été dernier, presque l'ensemble du coaching staff a été changé à Bienne, que l'été dernier, l'effectif a aussi passablement évolué, avec passablement de départs parmi les cadres. Oui, Laurent, Yannick Radgeb est parti. Oui, Stéphanie, Luca Ischier est aussi parti. On pense aussi à Künzle, à Kessler, etc. En plus de tous ces départs, pas forcément compensés au niveau de la qualité, forcément, Bienne n'a pas pu compter sur Gaëtan Haas, blessé. Il a disputé que 5 matchs. Victor Leuve, blessé, qui a disputé que 12 matchs. Damien Brunner, blessé, qui a disputé que 6 rencontres avant de mettre un fin définitif à sa grande carrière. Et comme prévu, même sûrement un peu plus que prévu, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu droit à du temps de jeu. Ils sont 8 encore en âge junior élite, donc 20 ans ou moins, à avoir eu des responsabilités du temps de jeu durant la saison. Voilà, en quelques mots, ce qui s'est passé cette saison à Bienne pour planter le décor. Ma question, elle est enfin là, Cyril. Est-ce que cette 9e place actuelle, c'est la juste place du HC Bienne, selon toi?
Alors, juste place, je sais pas, mais je trouve en tout cas, c'est pas si mal que ça, après tout ce que tu viens d'énumérer. Quand on pense que avec le départ de Künzle, la blessure de Brunner, on a perdu quand même presque la meilleure ligne du HCBN de ces dernières années, quoi. Donc c'est déjà beaucoup. Le capitaine Gaëtan qui a manqué toute la saison, c'est aussi un énorme coup dur. Idem pour Leuve. Donc moi je trouve, au vu des circonstances, c'est pas si mal d'être 9e, toujours en course pour une place en pré-playoff. Donc voilà, moi je trouve il y a pas de quoi paniquer par rapport à tout ça, et ça me paraît tout à fait correct.
Laurent, une des meilleures lignes de ces dernières saisons, t'avais pas l'air tout à fait d'accord, sinon t'es d'accord.
Alors, il y a quelques années, oui, on va dire les deux dernières, c'est déjà un peu plus compliqué. Damien Brunner a pris une bonne décision, je pense. J'ai beaucoup de respect pour ce, autant le joueur que l'homme, qui est quelqu'un de, on a déjà parlé, hein, qui est quelqu'un de très sympathique. La neuvième place, je suis assez d'accord avec Cyril, ça est à sa place. Alors, personnellement, je devrais pas dire ça devant Stéphanie, elle va me faire des gros yeux, mais j'aime bien suivre cette saison parce qu'elle est assez rock'n'roll. On n'est pas, c'est vrai que quand Bienne est tout en haut, comme il y a deux ans, c'est fun de, on va finir premier, deuxième, tout le monde dit, mais si on finit premier, on aura l'avantage de la glace en finale. Alors que, il reste encore 22 matchs la saison régulière. Là, on se pose d'autres questions. Moi, je vois pas le HC Bienne descendre jusqu'à la 13e place, franchement, parce que déjà, l'équipe le mériterait pas. Après, moi, je trouve le coach finlandais est assez créatif. Hein. Stéphane Rochet, très récemment, a explosé sa gestion de l'équipe en parlant d'un gamin de 15 ans avec Neuen Schwander comme centre du deuxième bloc, de mettre un défenseur comme Lucas Kristen aussi beaucoup en avant. Mais franchement, il a fait avec les moyens du bord, avec les blessures, et finalement Lucas Kristen a montré qu'il avait sa valeur et qu'il était bien utilisé. En fait, il est dans un rôle qui lui va bien. Neuen Schwander, ok, c'est peut-être un job difficile d'être centre du deuxième bloc à 15 ans, mais c'est l'avenir du club. Donc finalement, si on n'essaye pas maintenant des choses, quand c'est qu'on va les essayer? Et s'il est là maintenant à 15 ans, c'est qu'il a quelque chose, ce gamin. Et puis franchement, il a quelque chose. Donc, ouais, moi j'aime bien cette saison. Je ne devrais pas dire ça, je vais me faire exploser, mais j'aime bien cette saison.
Mais Stéphanie, tu me disais lundi, lors d'une interview pour Télébilingue, oui, ok, plein d'excuses, les coachs, les jeunes, les blessés. Mais là, maintenant, à 5 matchs de la fin, il faut arrêter les excuses et la manière qui n'a pas toujours été au rendez-vous, c'est ça que tu disais?
Effectivement, c'est quelque chose qui me frustre un petit peu quand je vois qu'il y a quand même du potentiel, malgré les blessures, malgré tout ce qu'il en est. Il y a quand même du potentiel, il y a quand même des matchs qui ont beaucoup d'intensité et puis beaucoup de bonnes choses. Mais ce qui est un petit peu insidieux, c'est que depuis le début de la saison, je crois qu'ils se sont mis dans la tête, ouais, mais bon, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il nous manque des joueurs. Si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des blessés. Si on n'y arrive pas, c'est parce que si. Mais stop the bullshit à un moment donné. Mettez-vous dans la tête que oui, vous pouvez y arriver. Oui, maintenant, il faut tout donner. Ça va être à la vie, à la mort pendant 5 matchs. Et puis après, on verra. Puis comme ça, on aura au moins la satisfaction d'avoir fait le mieux. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est à la fin d'une saison qui est émotionnelle et puis qui est passée, comme tu l'as dit, Laurent, par des hauts et des bas. Maintenant, je crois qu'il faut aussi peut-être prendre un step en arrière et puis se dire, on le savait en début de saison que ça allait être un petit peu différent. On le sait depuis le début de la saison qu'on n'a pas l'équipe pour viser les top places. On sait qu'on est en reconstruction et qu'on doit avoir cette patience pour essayer de reconstruire. Et c'est aussi pour ça qu'on aimerait avoir un team de coach qui puisse être dans la continuité pour pouvoir justement créer cette émulation et puis créer ce noyau, cette équipe qui va pouvoir nous amener plus loin. Mais c'est clair que quand on perd des matchs contre Ajoie et que tout le monde est énervé, on oublie cette patience. Et c'est normal parce qu'on est tous dans l'émotion en regardant un match. Moi, la première, hein, j'ai envie de jeter. Hein. Mais contre n'importe quelle équipe, je suis embêtée quand on perd. Et puis quand on perd pas avec, quand on perd encore avec la manière, oui, mais là. Donc, je crois qu'il faut un petit peu dissocier. Maintenant, il y a un objectif à court terme, c'est de se remobiliser et puis tout donner pour ces 5 derniers matchs. Mais il faut pas oublier qu'on est toujours encore en phase de reconstruction et que l'année prochaine ou l'année d'après, ce sera encore des phases et il nous faudra, je pense, encore 2 voire 3 saisons pour retrouver un niveau qui a été le nôtre et puis qui nous permettra de peut-être viser des places au sommet. Donc, il y a vraiment ces deux aspects et je les vis parfois très bien et puis parfois tout aussi mal que vous tous.
Il y a un terme reconstruction, c'est vrai que c'est un terme cotisme. Pas beaucoup en Suisse parce que les clubs sont souvent. On a eu Berne qui était longtemps, Berne Zurich longtemps au top, etc. Les clubs restent souvent dans leur position. Il y a les clubs de milieu de tableau, de bas de tableau, etc. Ce terme-là est assez nouveau en Suisse et moi je suis beaucoup la NHL, notamment le Canadien de Montréal qui est en reconstruction depuis quelques années. Et la saison de Montréal me fait penser à celle de Bienne, ou plutôt inversement peut-être. Parce que Montréal a des périodes, tout d'un coup, pendant 7-8 matchs, ça joue très bien. Ils se retrouvent, comme ils disent, dans le tableau pour être participés aux playoffs. Puis après, il y a 4-5 matchs, la qualité du jeu, c'est la même équipe, il n'y a pas beaucoup de changements. La qualité du jeu baisse et il y a des défaites. Et puis, Bienne, c'est vraiment l'équipe en reconstruction, dans le sens que quand on a des jeunes joueurs, ou bien pas forcément des jeunes, mais des joueurs qui arrivent et qui ont un nouveau rôle. Je prends le gars de Kneubuller qui a vraiment un rôle en vue cette année. Il n'a peut-être jamais eu un rôle comme ça en vue dans une autre équipe. Il y a Nicolas Müller qui est plus un junior, mais qui a sa première saison vraiment avec des adultes. Il y a le Nicolas Müller, l'ami de Cyril Pache, hein, faut-il le rappeler. Il y a beaucoup de facteurs qui font que la constance, c'est le, dans une équipe en reconstruction, c'est le plus dur à avoir. C'est pour ça qu'on l'a bien vu le week-end dernier. Il y a eu deux gros matchs contre Genève et Zurich. Et après, on se retrouve contre Rapperswil. Mais quelle horreur de match, quoi. Je voyais ça, je regardais en même temps le match de Coupe du Monde entre la Finlande et la Suède en parallèle. J'ai l'impression d'avoir une équipe de junior, un match de junior B de moins de 15 ans. Puis les autres, il y avait des adultes, quoi, sur le match qui se dispute à Montréal. C'était deux sports totalement différents. Puis je pense que c'est difficile d'intégrer, justement, quand on est fan, puis que, comme disait Stéphanie, on a envie d'avoir de la victoire, on ne veut pas avoir de défaite, on a envie d'avoir du beau jeu, etc. On était habitué à du beau jeu. C'est des fois difficile d'accepter le fait qu'il y a ces trous de performance. Voilà, j'ai fini.
Cyril, il y a quand même une certaine forme de constance. À l'extérieur, bien perd, à la maison, bien gagne. Sur les 13 derniers matchs, 12 défaites sur la route. 12 défaites en 13 matchs sur la route et sur les 13 derniers matchs à domicile, 9 victoires. Comment t'expliques ça, qu'à l'extérieur, ça marche pas, mais à la maison, plutôt pas mal?
Bah, je trouve que c'est mieux comme ça que l'inverse, hein, parce que si chaque fois qu'on a un match
à l'extérieur, ça m'embête un
Alors,
peu plus.
En effet, ouais, c'est peut-être pas encourageant pour la suite, mais non, moi, je suis un peu moins sévère sur le jugement des derniers matchs. Je sais pas, quand je regarde les défaites, premièrement, c'est toutes des défaites serrées, donc pour moi c'est quand même déjà un bon signe. C'est une équipe qui lâche pas, qui arrive quand même à tenir même dans les matchs difficiles. Il y a quand même quelques victoires qui sont pas si évidentes que ça, comme contre Zurich, comme contre Genève, justement ces matchs à la maison où on n'attend pas toujours des victoires, mais le HC Bien est quand même allé les chercher. Donc moi, je trouve que c'est bien quand je compare avec d'autres équipes, comme par exemple Genève, qui connaît une saison encore plus compliquée que celle du HC Bienne, qui est une équipe, Genève est une équipe qui a perdu énormément de matchs sur des scores très élevés. Ça, c'est jamais bon signe. Mais je trouve que Bienne, voilà, c'est toujours accroché. C'est des défaites, oui, mais souvent d'un but ou deux maximum, mais pas plus. Donc, moi, je trouve tout de même encourageant. Et puis, gagner à la maison, peut-être ça peut quand même permettre d'accrocher une place en pré-playoff.
Ouais, tu l'as dit Stéphanie, il reste 5 matchs, 3 sont à l'extérieur. Vous allez faire quoi? Changer le quart, leur offrir une nuit d'hôtel la veille?
Non, je crois qu'il faut consolider sur ce qu'on fait et puis simplement se persuader que la confiance en soi, c'est la clé. Parce qu'un joueur qui a confiance en lui, il fait pas la passe en trop, il fait la passe plus précise. Et puis je crois que c'est là-dessus que le coaching staff va vouloir travailler, de tout simplement cultiver les acquis et puis revoir ce qui marche bien. Enfin, après, je suis pas dans la tête des coachs, je vais pas voir ce qui se passe. Je suis incapable de coacher une équipe, donc je les laisse faire.
Et puis si jamais ça marche pas, on peut changer d'entraîneur. Hein. Je crois qu'il y a Petri Martikainen qui est sur le marché maintenant.
Exactement.
Oui, mais non. Je crois qu'il faut pas revenir dans les choses qu'on n'a pas fait forcément bien.
On en reparlera dans la partie questions des auditeurs parce qu'on a reçu une question sur Petri Martikainen.
Allez.
Il reste 3 scénarios. Au final, c'est assez simple. Alors oui, je suis d'accord techniquement 4 parce que mathématiquement, Bienne peut toujours se qualifier directement pour les playoffs, mais je me permets de l'écarter, soyons réalistes. Scénario 1, play-in, comme la saison dernière. Scénario 2, 11 ou 12e, donc vacances. Et scénario 3, Bienne avant-dernier tremblera en play-out contre Ajoie. Je te l'ai déjà posé lundi cette question, Stéphanie, je te repose la même. Au final, ça changerait quoi concrètement pour le club si c'est play-in, vacances ou play-out? Il y aurait vraiment des conséquences différentes?
Alors, play-in, évidemment, on arriverait à ce qu'on a planifié dans le budget, c'est-à-dire 2 matchs supplémentaires, avec un match avec des émotions, avec des gens qui vont venir à la patinoire dans une perspective positive, c'est-à-dire la possibilité d'accrocher une place en play-off, et aussi peut-être une ouverture sur la saison prochaine qui sera plus brillante. Je pense particulièrement à toute l'équipe marketing qui va devoir aller retrouver et renouveler des contrats de sponsors. Si on est en vacances, alors on est sauvé, tant mieux. Mais on restera quand même sur une petite impression amère d'avoir terminé la saison en demi-teinte. Financièrement, ça va être super ric-rac parce qu'il nous manquera ces 2 matchs supplémentaires. Maintenant, effectivement, on n'aura aucune prime ni rien à payer. Donc, je pense que ça va être plus ou moins équilibré, un peu vers le bas, mais je pense qu'on arrivera à s'en sortir. Et si on doit faire la série de la peur contre Ajoie, alors là, pour moi, c'est le pire scénario. Non seulement parce que c'est des matchs, je déteste ces séries de la peur où on gagne pour ne pas perdre, quoi. Moi, où on joue, pardon, pour ne pas perdre. Moi, ce que j'aime, c'est jouer pour gagner. Et je crois les joueurs aussi. Et en plus de ça, si je pense qu'à jouer, ils sont prêts beaucoup plus que nous pour une série pareille. Et elle se joue dans la tête, cette série-là. Elle se jouera pas sur la technique. Et à mon avis, j'ai pas du tout envie de me lancer dans une série comme ça qui n'amènera pas de bonnes ondes, quoi.
Ah, Genève à Joie, là, en play-out, ça serait super. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? On serait bien
je
là.
Préférerais. Ah, ça, moi, je préférerais, personnellement.
Ce serait beau, là, pour l'ego des Genois, quoi.
On a deux questions d'auditeurs et d'auditrices sur ce thème-là. Tia, je pense, répondu. D'abord, Fabienne, quelles conséquences pour le club si l'objectif play-in n'est pas atteint? Tu as répondu.
Oui.
Et Tristan, si bien ne se qualifie pas pour les play-in, est-ce une saison qu'on peut qualifier de ratée?
Alors complètement raté dans la mesure où on se maintient en Liga peut-être, enfin en National League pardon, je suis un petit peu old school là, sur ce coup-là. On peut pas dire complètement raté, décevante certainement.
Très bien. On reçoit le calendrier, bien on regarde le calendrier, bien qui reçoit Zoug vendredi, sera ensuite à Ambry à Fribourg, reçoit Langnau et termine à Lugano. Il y a aujourd'hui 8 équipes qui sont ni en verte ni en rouge sur le télétexte et lors des 5 derniers matchs, bien en affronte 4. Une bonne chose ou bien pas, Laurent? Des matchs à 6 points, 4 matchs à 6 points sur les 5 derniers.
C'est pas mal de finir à Lugano, parce que ça peut même se jouer là. Bien Langnau, je ne sais pas pourquoi Bien peine souvent contre Langnau. Après, à Fribourg, l'avantage qu'il pourrait avoir ce match, c'est que Fribourg pourrait être déjà qualifié pour les playoffs, ce qui risque d'arriver, ce que j'espère pour Fribourg et surtout pour le HC Bien, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile, Souk tourne bien, Ambry à Ambry, c'est toujours bien méchant. Il y a ce match à Fribourg, Langnau, on n'aime pas, et puis le dernier à Lugano, qui pourrait s'avérer décisif pour une place en play-in.
On a été capable du meilleur et du pire à Lugano.
Ouais, mais
quoi,
je pense que ça aurait été plus facile d'avoir Zurich Davos, par exemple, à domicile, on va dire, étonnamment, que ces équipes-là. C'est costaud, c'est très costaud. Si bien arrivent en play-in, ils auront réussi quelque chose, puis ça peut être le début, un déclic pour l'équipe, ce qu'on peut espérer. Ouais. Après, j'espère pas non plus de... Ça, c'est très personnel. Contre les Bien-Ajois, j'ai jamais aimé, surtout dans des, dans des séries. C'est trop personnel.
On est à un tiers de l'épisode, il reste une petite demi-heure. Je propose de déjà passer à toutes les questions d'auditrices et auditeurs. Comme ça, on essaie d'en poser un maximum au cas où, par miracle, il nous reste du temps.
On va boire un café, nous, c'est bon.
Vous pouvez, ouais. Si par miracle, il reste du temps, on va revenir à un fil rouge plus classique. Mais les questions d'auditrices et auditeurs, d'abord sur des individualités. Question de Sandrine. Est-ce que le contrat de Greco sera prolongé? Il y a Daniel qui pose la même. 19 matchs, 9 buts, 3 assists. Il semble plaire à pas mal d'auditeurs, sauf à Laurent Claisson.
C'est Daniel Villard ou bien qui pose la question?
Tu peux, évidemment, j'imagine pas en dire plus à ce stade-là, Stéphanie.
Effectivement, c'est un joueur qui a plu, plus ou moins, hein, puisque vous n'êtes pas tous d'accord, mais ouais, c'est pas grave.
Il a commencé timidement, puis c'est vrai qu'il est intéressant.
Au jour où je vous parle, j'ai pas encore d'informations sur son contrat. Il fait partie, évidemment, des contrats dont on étudie le renouvellement, mais j'ai pas de réponse à vous donner. Désolé, Sandrine et les autres.
Une question plus importante de Flo. Bonjour à tous. Stéphanie, maintenant, Kishier n'est plus là. Qui est le chouchou?
Ça, c'est vraiment la question incroyable. Alors, vous savez, je me suis beaucoup posé la question, chers auditeurs, auditrices, je me suis beaucoup posé la question et j'ai déterminé une chose fondamentale. Je vous l'annonce ce soir. J'ai décidé que j'étais devenue beaucoup trop vieille pour avoir des chouchous. Donc, dorénavant, dans la générosité dont je suis capable, je les aime tous.
Oh, là.
Ça s'applaudit.
Bravo. Bon, on fait partie du lot, j'espère.
Évidemment. Vous êtes mes stars, les enfants, voyons.
Et on passe aux grandes catégories de questions. J'ai fait deux catégories. C'est un peu rigolo. Sport et stade. Mais sport, en fait, il n'y en a que deux. Puis tout le reste, c'est des questions liées au stade.
Incroyable.
Donc, on va aller sur sport, parce que c'est très court, je pense. D'abord, Raph. Bonjour, Stéphanie. Au niveau du futur du HC Bienne, quelle est la vision sportive du club à 3-5 ans? Reconstruire un effectif capable de viser le titre ou alors se contenter de viser les places d'honneur, les play-offs, peut-être des demi-finales? Si le but est de viser tout en haut, qu'est-ce qui est mis ou va être mis en place?
Alors clairement, le but à 3-5 ans, c'est de reconstruire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de reconstruire et puis d'avoir une équipe qui puisse batailler dans les meilleurs du classement, c'est-à-dire d'arriver au top 6 directement. Ça, c'est clairement l'idée. Maintenant, il y a beaucoup de challenges dans cette chose-là. Sachant qu'on a un stade qui est rempli à 98%, ça veut aussi dire que si on veut avoir des meilleurs joueurs, des meilleures équipes, il faudra du budget en plus. Donc, en ayant un stade rempli à 98%, que ce soit le sponsoring, les spectateurs, les donateurs, les sponsors, tout ça. Bref, ça va être compliqué. Donc, il faut qu'on soit créatif, qu'on trouve des idées et puis on y travaille. Et la deuxième chose, il y a quand même toujours encore cette pression sur les salaires qui existe. Il y a aujourd'hui quand même des équipes qui ont des budgets qui vont du simple au double dans la même ligue. Et c'est vrai que cette évolution, elle fait peur à des clubs comme nous qui n'avons pas un budget extensible, parce que on se dit, est-ce que vraiment on va pouvoir continuer à régater avec ces équipes qui arrivent à donner des millions beaucoup plus facilement que nous? Donc oui, on veut reconstruire, on veut continuer à essayer d'accrocher ce top 6 dans les prochaines années. Maintenant, il faut être réaliste et puis il faut qu'on se pose les bonnes questions par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour augmenter le budget et maintenir une masse salariale qui soit à la hauteur de nos ambitions, tout simplement.
Il y a de grands projets à venir pour justement augmenter significativement le budget?
Il y a certains projets qui sont à venir. À l'heure où je vous parle, le seul moyen de faire des gros avancements, c'est de faire des augmentations de prix. C'est absolument pas dans la philosophie du HCBN à ce jour, parce qu'on n'est pas dans une région ni dans une situation économique qui nous permet d'augmenter les prix de manière folle. Et ça, on n'a pas du tout envie de le faire sur le dos des spectateurs et des spectatrices.
Le gin tonic, à la limite, on peut pousser vers le haut.
Gin tonic, allez, bon. Peut-être. Je transmets la proposition. Maintenant, il y a toujours l'éternelle question. Je sais qu'elle va probablement revenir la petite roue là dans les places debout qu'il faudrait combler.
Exactement.
Donc ça peut être une piste. Il y aura un nouveau cube LED, des nouvelles bandes LED qui vont nous permettre aussi d'étoffer un petit peu l'offre digitale pour des sponsors qui veulent être présents dans la patinoire. Il y a toujours ces places sponsors et donateurs qui sont vides, qui ne sont pas utilisées, ce que j'appelle les sièges froids, ces cold seats qu'on doit encore plus activer, c'est-à-dire qu'on doit avoir une solution qui est facile, où chaque donateur ou sponsor qui a un siège qu'il n'utilise pas, qu'il puisse facilement le remettre en vente. Après la vente, elle irait au profit en partie des juniors, ce qui nous avance et qui nous permettrait aussi d'avoir plus de gens dans la patinoire sur des matchs où c'est un petit peu serré. Mais au-delà de ça, en gastronomie, je pense qu'on peut aussi encore faire quelques efforts, mais c'est pas des points qui vont nous permettre d'avancer d'un million chaque année, clairement, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrive à voir ce qu'on arrive encore à faire de mieux, avoir plus, encore plus de juniors qui performent, qu'on puisse intégrer dans l'équipe. Il faut qu'on aille voir partout et je crois que c'est aussi une des clés maintenant qu'on doit étudier sur ces prochaines... Je pense que l'été prochain, on va un petit peu se creuser les méninges quand même.
Ce cube et ces écrans LED, ça c'est pour la saison prochaine déjà?
Normalement oui, vous savez comme moi que ces projets de construction ont toujours peuvent avoir des problèmes, mais normalement ça devrait être pour la saison prochaine. Ouais.
Donc c'est pas des bandes qui sont LED, hein, c'est des bandes animées par une technologie LED, hein, faut préciser. Hein,
oui, pardon.
On parle de bandes LED.
Mais pas de révolution pour les spectateurs la saison prochaine, ça va changer un peu dans le stade. Après, tu parlais de revendre ces billets pour les spectateurs lambda, en dehors des sponsors et des donateurs, ça existe déjà, ça?
Ça existe déjà. Chaque sponsor ou donateur qui a un billet qu'il ne peut pas utiliser pour un match peut, via l'application, le remettre en vente. Et il rentre dans le système tout à fait standard. Donc après, monsieur et madame, tout le monde peuvent aller les acheter, ces billets.
Et une question qui va dans le même sens de Thomas. 8e budget de la Ligue actuellement, quelles mesures sont prises pour assurer, entre guillemets, une place dans ce top 8 à l'avenir?
Ben, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est d'explorer tous les moyens de pouvoir faire du chiffre d'affaires en plus et puis des économies sur d'autres choses et c'est ce qu'on va essayer de faire avec quand même un espoir que les grandes équipes ne vont pas encore dépenser plus d'argent et puis créer plus de fossés entre ce haut de classement avec des équipes qui ont plus de budget et nous, ventre mou du classement, je pense qu'on n'est pas, les seuls dans ce cas-là.
On a reçu de très long message de Fabrice et de Fabien. Les deux vont à peu près dans le même sens, donc je les ai regroupés en un message plus court. Alors, c'est les mêmes questions, plus ou moins. Le point 1, pourrions-nous améliorer la communication? Là, il parle de plusieurs points au niveau de la communication. Il parle notamment de ce qui s'est fait d'abord autour de la Saint-Valentin. Il y avait bien Genève et rien n'a été fait autour de cet événement. Donc, est-ce que là, Stéphanie, tu veux déjà répondre à ce premier point au niveau
oui,
de la communication du club?
Oui, je peux répondre à ce premier point parce qu'il m'a fait rire. Et puis, je trouve ça marrant qu'on parle de Saint-Valentin et de hockey. Effectivement, on n'a pas fait quelque chose de spécial parce que c'était pas une priorité. Nous, on voulait se concentrer sur le match et c'était pas ce qui nous semblait important. Et en revanche, j'ai invité que des dames dans ma loge parce que c'était des dames qui n'avaient pas de Valentin parce qu'ils étaient un peu sur la glace. Et donc, du coup, j'ai eu des Valentines qui ont regardé leurs hommes performer et gagner, c'était parfait.
Les deux trouvent que les engagements ou bien les prolongations de contrats en l'occurrence, il pense à l'arrivée de Rodwin Dionisio, pourrait être annoncé plus fréquemment, ou pourrait être annoncé tout court, sur le cube central pendant le match, comme ça se fait ailleurs dans d'autres clubs. Ça, c'est une idée.
C'est une idée, probablement qu'il faut qu'on explore. Maintenant, vous savez comme moi que les renouvellements de contrats sont souvent conditionnés à des clauses de confirmation ou bien d'informations qu'on doit respecter. Donc, il y a certaines choses qu'on peut dire, certaines qu'on ne peut pas dire. Et ça, c'est effectivement fait entre la direction sportive, les joueurs, les agents. Et on essaie d'annoncer ça au moment opportun avec plus ou moins des canaux qu'on aime utiliser. C'est une possibilité explorée. Je lance aussi la question.
Et par de moments opportuns, Stéphanie, c'est très juste parce que les renouvellements de contrat, ça aide aussi le club à animer des périodes creuses. Souvent, on peut avoir des annonces qui sont faites au mois début novembre pendant la pause de l'équipe de Suisse. C'est des contrats qui sont signés au mois de juin. Puis les clubs animent, existent pendant des périodes creuses de championnat ou de saison morte, il continue d'exister. Si on annonce la prolongation de contrat de, je sais pas, moi, de Tony Rayada pour 4 ans, qui prolonge de 4 ans en plein match un mardi, tout le monde doit faire oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il y aura dans les journaux à la télé? Il y aura juste une petite annonce qui sera diluée parce que dans un contrat d'une match, etc. Et là, le HCBN, au niveau médiatique, je parle, au niveau de l'annonce médiatique, comme son événement, c'est un match, mettre un événement dans un autre, finalement, il se coupe des canaux de communication. Donc, c'est quand même, les clubs réfléchissent aussi à ça, c'est du marketing de communication, c'est-à-dire qu'il faut échelonner pour exister le plus souvent. D'ailleurs, vous en parliez là, avec Sébastien Meyer, oui, pas plus tard que la semaine passée, aussi pas tramelant, hein, lors d'une conférence fort intéressante qui était donnée sur le business du HCBN. Un club doit exister le plus souvent et le plus longtemps possible, et les renouvellements de contrats puis les signatures, ça fait partie de cet habillage-là.
Et puis, j'aimerais revenir, il y avait comme une question sur la communication, le fait qu'on communiquait mal. Alors, on peut effectivement nous reprocher qu'on communique mal et puis on n'est jamais parfait. Mais je crois que si vous avez été un peu fouiné dans les réseaux sociaux, on a une nouvelle personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Il fait des petites capsules vidéo. Là, il y a la dernière, c'est sur la coiffure de Stoney.
Sur Instagram.
Et sur Insta, sur Facebook.
Et sur TikTok depuis cette saison.
Et sur TikTok depuis cette saison. Je crois qu'il fait des petites capsules qui sont super fraîches, qui sont dynamiques, qui implique les joueurs, qui montrent un petit peu les coulisses. Et puis, c'est ça aussi qu'on a envie de voir au-delà des matchs. Et je crois qu'il fait ça très bien. Alors, évidemment, on peut pas être parfait. Il y en a toujours qui trouveront qu'on peut faire mieux. Mais je pense que là, on a quand même fait un pas en avant. Et d'ailleurs, je le remercie parce que non seulement c'est un gars super, mais en plus, il a des vraies idées créatives. Et moi, j'aime bien ça.
Je le connais pas, mais je partage cet avis. Très bonne vidéo cette saison. On va parler nourriture maintenant.
Ah, question c'est l'heure,
Fabrice.
Nous, on est à l'heure de l'apéro, mais c'est l'heure, bientôt.
On peut dire restauration, puis pas gastronomie, c'est juste ça.
Alors, Fabrice a utilisé
très
le
bien
mot
vos saucisses,
restauration. Je vais citer Fabrice. Nous investissons beaucoup d'argent dans la restauration.
Merci.
Mais pouvons-nous parler de la très mauvaise gestion des restaurants à la Tissot? Le Capitano, souvent vide, qui est utilisé comme cantine des joueurs. Le Spielbar, ouvert uniquement le soir des matchs. Sans parler des soirées grand-papa au Spielbar avec cette musique d'après-ski des années 80. Les jeunes préfèrent aller dans les établissements du centre-ville. Pourquoi ne pas chercher à garder les spectateurs au stade après les matchs? Voilà son message complet. Il a abordé plusieurs points. À toi la parole.
Alors, restauration, pourquoi est-ce qu'on investit autant dans la restauration? Je sais que beaucoup ont réagi quand on a fait les annonces de l'acquisition du Palace et du Cécile. Et peut-être que là, on a mal communiqué. On a parlé d'acquisition. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse la différence entre acheter un restaurant et gérer un restaurant ou un bar. Ce qu'on a fait, effectivement, c'est qu'on a pris la gestion du Palace et du Cécile. On les a pas achetés. Donc, on n'a pas dépensé des mille et des cents. Ce qu'on a dépensé en investissement pour la communication et puis un petit peu les ajustements qu'on a fait, c'est pas le début d'un quart, d'un demi, d'un dixième de joueurs qu'on a investi. Donc, arrêtez de me dire et de nous dire qu'on a dépensé de l'argent pour rien dans ces restaurants. Est-ce qu'on les gère mal? Probablement. On les a pas encore assez mis dans le bain du HCBN, ces deux établissements. Ces deux établissements au centre-ville qui pourraient justement fédérer les fans hors des matchs. Et ça, c'est pas encore fait assez. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Si le reproche, il nous est fait, eh ben, je l'accepte volontiers. Et c'est quelque chose qui est sur notre bucket list pour la saison prochaine. C'est une évidence. Les restaurants sont mal gérés à la Tissot Arena. Évidemment, quand on est allé à la buvette et puis qu'on a attendu sa bière ou bien que sa saucisse était un peu fraîche et puis ouais, je suis d'accord. Il y a pas tout qui est parfait non plus. Et là aussi, on a toute une liste de choses auxquelles on essaye d'améliorer. Je crois que les dernières années ont été un petit peu compliquées dans cette restauration. C'est grand, la Tissot Arena, les chemins entre les cuisines et puis les différents points de là où on délivre la nourriture ou bien les boissons aux gens sont souvent longs. Et on n'a pas tout qui est optimal. Est-ce qu'on a pensé à tout? On commence. Est-ce qu'on a dû gérer des crises ces dernières années? Oui, beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément vues, de problèmes de système de caisse et tout ça. Est-ce qu'on est sorti de ces problèmes? Oui. Et ça, c'est bien. Et on a une nouvelle équipe de gastronomie qui se met... Enfin, pardon, de restauration, excusez-moi. Restauration de stade qui se met en place aussi.
Merci.
Et je crois que là, il y a pas mal de choses qui vont essayer de se mettre en place gentiment parce qu'on est bien conscient qu'on fait pas tout bien et qu'il y a des choses qui sont super et qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer. Et je sais que c'est frustrant parce que quand on est sur un événement comme un match, on a envie que l'expérience elle soit parfaite du début à la fin. On veut un bon match, on veut une bonne saucisse, on veut une bière fraîche rapidement et puis une victoire à la fin, forcément. Et ben voilà, des fois on l'a pas complètement. Et puis je pense que aussi des fois la perception de la fraîcheur de la bière par rapport à la victoire ou la défaite, elle est pas toujours la même. On est des petits animaux émotifs quand même. Et donc du coup, on n'est pas toujours pareil. Mais c'est vrai. On a encore une vraie marge de progression au niveau de la gastronomie et je crois que c'est aussi dans cette optique-là qu'on a renouvelé une partie de l'équipe et puis qu'on va vraiment essayer de travailler sur les points. Et oui, on doit écouter les gens parce que finalement, c'est ce service aux clients qu'on aimerait améliorer.
Fabrice le demande, Yvan le demande aussi, c'est une volonté de vouloir garder plus longtemps les gens à la Tissot après les matchs?
Absolument, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de gens qui partent ailleurs pour peut-être boire un dernier verre et puis manger encore quelque chose. Est-ce qu'on peut les retenir en offrant une offre de nourriture à la sortie du match? Ça, on se pose la question. Et puis après le match, il y a le Sbill Bar évidemment. Alors vous allez me dire, la musique elle plaît pas, mais bon, voilà, elle plaît pas à tout le monde, elle plaît à certains. Est-ce qu'on doit faire plus de tournus pour avoir des DJ différents? Peut-être, il faut qu'on se pose la question. Et puis, je crois qu'il y a encore une question sur la gestion du Capitano qui est toujours vide ou ce genre de choses-là. Alors, évidemment, mais vous le savez comme moi, c'est pas en dehors des matchs, c'est pas un endroit qui est fréquenté. Le centre commercial n'attire pas beaucoup de monde. Et on a testé d'ouvrir la midi, d'ouvrir le soir. Mais finalement, ouvrir un restaurant et garder du personnel pour servir deux plats, là, on dépense de l'argent pour rien. Là, je suis d'accord. Et on a pris une décision qui était drastique, c'est de dire on n'ouvre que quand on en a vraiment besoin. Et aujourd'hui, je pense que plus de 98% de la gastronomie, du chiffre d'affaires de la restauration et de la gastronomie se fait les soirs de match. Donc, il faut aussi être très réaliste dans la gestion d'un établissement comme tel, parce que si on doit ouvrir un établissement midi et soir, se dire qu'on doit doubler les équipes, parce qu'on peut avoir une équipe qui fait toute la journée. Et je crois que là, on s'est vraiment posé les bonnes questions, de dire on préfère avoir un restaurant fermé mais plein pendant certains événements, plutôt qu'un truc vide qui donne envie à personne, finalement.
Merci beaucoup Stéphanie. Avec la question de Fabrice, je pense que tu as répondu à beaucoup d'auditeurs. Même chose avec la question de Gilles, ça va regrouper plusieurs questions qu'on a reçues pour cet épisode. Gilles demande votre plus beau pitch pour motiver les gens à prolonger l'abonnement pour la saison prochaine. On s'ennuie sec à la Tissot depuis 2 ans. Le sportif ne rattrape pas toutes les lacunes connues. Entre parenthèses, catering, ambiance froide, attente interminable pour commander, etc. Il conclut son message quand même par merci.
Ben merci aussi, je vais dire. Alors, on s'ennuie à la Tissot Arena. Donc, je pense qu'il faut quand même remettre les choses au milieu de la patinoire. C'est-à-dire que si on vient à la patinoire et à un match, c'est pour voir un match, justement. Et est-ce qu'on s'ennuie autour? Oui, alors peut-être qu'on s'ennuie autour parce que vous n'avez pas un bon pote pour venir à la patinoire. Je sais pas, moi, je m'ennuie rarement. Donc, mais effectivement, est-ce qu'on pourrait faire plus d'animations? Oui. Mais vous savez comme moi, une animation, ça coûte vite 20, 30, 40, 50 000 francs. 50 000 francs par soir sur 25 matchs, vous voyez vite ce que ça fait. Et ça veut dire qu'on enlève un ou deux joueurs à la place. On a pris notre décision. Donc, si on s'ennuie à la patinoire, j'ai envie de dire, amenez vos meilleurs amis, buvez un bon drink et puis vous verrez que la soirée va être beaucoup plus sympathique.
Tu en as parlé, mais je te repose la question sur le même sujet. Il y a Julien qui parle justement de ce trou qui scinde la tribune debout en deux. Tu disais que c'était une possibilité pour améliorer le budget. C'est quelque chose qui pourrait voir le jour déjà la saison prochaine?
J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. Maintenant, il y a encore deux, trois sujets de sécurité et puis de faisabilité qui sont un peu plus compliqués que ce qu'on avait imaginé au départ. On est en train de les étudier. Et puis après, ben, il y a le financement. Ça vaut, je pense, à peu près une centaine de milliers de francs. 100 000 francs, c'est quand même quelque chose qu'on doit trouver quelque part, qui n'est pas prévu dans le budget standard. Donc, il va falloir qu'on trouve une idée parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas que ces investissements d'infrastructures péjorent la masse salariale des joueurs. Et malheureusement, comme on n'a pas un budget extensible, il y a des moments où, si on doit privilégier un projet, ça veut dire qu'on doit couper un autre. Et là, pour le moment, on ne sait pas, on aimerait tout faire. Donc, on ne sait pas ce qu'on veut couper. Et vous pensez bien que ne pas avoir la masse salariale qu'on désire, c'est inenvisageable. Et puis ça, c'est notre première priorité. Et tout le reste est subordonné à ça.
Parfait. Ben, merci beaucoup. On a reçu beaucoup de questions sur le stade, la gestion du stade, de la restauration. Laurent, je crois qu'elles ont été posées et répondues. On y a allé cash. On a cité les questions telles quelles. Tu y as répondu cash aussi. Merci beaucoup. On va passer maintenant à des individualités pour les quelques minutes qui nous restent. On a une question sur une personne qui faisait partie du club, Petri Matikainen. Oui. Son contrat a donc été résilié. On l'a appris début février. Il y avait marqué dans le communiqué que les conditions de cette résiliation ne seront pas dévoilées. Ben, la question de Michael, elle est assez simple si je la résume. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en savoir un peu plus sur les conditions de cette résiliation?
Non.
Dévoile.
Non, alors écoutez, c'est des cuisines internes. On a réussi à trouver un accord à l'amiable avec Petri Matikainen pour mettre fin à ce contrat. Comme ça, lui est aussi libre d'aller voir plus loin. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui ou demain qu'il va rentrer en Finlande. Et puis, on lui souhaite surtout bon vent de trouver l'organisation qui lui convient parce que visiblement, on n'était pas cette organisation.
Parce que tu dis que vous ne deviez pas dévoiler de détails, c'est au moment où vous avez décidé de vous séparer. C'est-à-dire qu'avant, tu peux dévoiler des détails. C'est qui a fait le premier pas? C'est lui qui s'est dit, ouais, finalement, j'ai assez pompé de fric, ouais, je sais bien, pour peut signer. Ou bien c'est vous qui avez fait comprendre, écoute, mon Gugus, ton appart, on aimerait bien le nettoyer et puis le louer. Et puis ta bagnole, on en aurait besoin aussi. Puis il y a des jolis avions qui rentrent vers la Finlande. C'est qui a fait le premier pas?
Je crois que ça a été de notre côté. C'est un des membres du conseil d'administration qui est allé discuter avec lui pour savoir où ça coinçait, et puis ils ont fini par trouver un accord.
Ah, il y a du costaud. J'essaie de voir qui c'est qui est assez... Steinegger n'est pas membre du conseil d'administration. Donc, voilà, quoi. On n'en saura
C'était
pas plus.
C'était pas moi. Je suis pas assez diplomate.
Je reste sur des questions individuelles. On va parler de Rodwin Dionisio. Enfin, on va parler plus largement de ce vendredi 31 janvier. Il y a l'annonce de l'engagement de Rodwin, si on veut, de la venue de Rodwin, pour être plus exact, qui a été faite, et du départ pour Fribourg de Noah. Comment ça s'est passé cette journée-là? Tout s'est fait très vite.
Tout s'est fait très, très vite. Moi, j'ai appris le samedi matin que ça allait se faire définitivement. Donc, je ne l'ai pas su beaucoup avant que ce soit annoncé à la presse. Et j'en sais pas beaucoup plus, en fait, parce que c'est vraiment la direction sportive qui suivait l'histoire de près. Maintenant, c'est vrai que on a posé la question à Noah, et puis je crois que ça s'est aussi fait d'un commun accord. Enfin, on l'a pas fichu dehors parce que c'est vraiment pas la façon de faire, et c'était vraiment pas l'envie non plus, parce qu'il n'a jamais montré de choses désagréables envers son club de formateur. Et j'espère vraiment pour lui, parce que je crois qu'il a pas beaucoup joué malheureusement depuis qu'il est à Fribourg, et j'espère sincèrement qu'il va pouvoir grandir, parce que tout simplement il a le talent, il mérite de grandir.
J'imagine.
Mais peut-être loin d'ici, parce que c'est deux fois lourd d'être l'enfant du pays,
c'est
et
vrai.
De porter ce poids de l'enfant du pays dans une patinoire. Bon, vous y êtes aussi un peu pour quelque chose avec les histoires
le surnom de Miracle
d'Orvin, là, franchement. Merci la presse, hein, merci.
On ne se sent pas visé, hein, Cyril.
Non.
Cyril, un mot, mais on vous a pas beaucoup entendu, Laurent Cyril, dans cet épisode qui sera forcément nommé. Stéphanie Meria répond à vos questions, vu qu'on a reçu énormément de questions. Mais un mot sur Noah et Rodwin. Noah, d'abord, pas de match pour lui du côté de Fribourg pour l'instant.
Non, je pense qu'il l'économise pour les playoffs.
On est d'accord.
Moi, je lis ça comme ça.
Pour Dionisio, je l'ai pas encore, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer avec Bienne. Je l'avais vu jouer quand il était tout jeune aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne. Et il m'avait fait une très très bonne impression. Après, je sais pas quels sont ses plans de carrière. J'imagine que la suite de sa carrière doit pas tellement se situer à Bienne. Je trouve un peu dommage pour les autres jeunes défenseurs qui ont vraiment fait une super saison, qu'on pousse absolument un autre joueur qui est juste de passage. Mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il va rester ici pour les 3 prochaines années. Et là, tant mieux. Mais voilà, je trouve que il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment fait du bon boulot, des jeunes dans des situations difficiles. Et voilà, je pense que c'est pas facile à gérer pour tout le monde. Quand des nouveaux joueurs débarquent, ont beaucoup de temps de jeu, je crois que c'est le cas de Dionisio. Après, peut-être ça se justifie totalement ou pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur que je me réjouis de voir jouer avec Bienne, et puis et on verra pour la suite.
Laurent, pour t'entendre aussi sur Dionisio, c'est un peu qui tout double avec lui, soit il foire complètement, il a d'ailleurs 2 buts sur la conscience rien que contre Rapperswil, soit il fait de très belles choses. Si on regarde en chiffres, tu disais Cyril, il joue beaucoup, plus de 20 minutes en moyenne par match, 4 matchs, 3 assists, moins 1 de plus-minus, il joue le premier power play, il essaye en tout cas beaucoup, il est spectaculaire.
Ouais, moi j'aime bien, il apporte quelque chose, apporte aussi un côté physique qui manque en l'absence de Löw. Après, c'est vrai qu'il fait 2-3 erreurs de jeunesse, des relances des fois un peu trop risquées. Il doit trouver aussi son rythme, hein, il doit trouver sa place. Hein. Il a vécu les dernières années sur des petites patinoires nord-américaines aussi, hein, il y a des repères à prendre. Après, j'aime bien l'impact qu'il a, je pense que on sent que par rapport à Noah de Lémon, c'est quand même le calibre au-dessus. D'ailleurs, Noah, ça va, je pense que ça va lui faire du bien de partir un petit peu, je veux dire, de l'anonymat de Fribourg, je sais pas, parce qu'il a déjà eu... Il a fait les gorgeux choses de la liberté. Après, il porte le nom d'un chef-lieu cantonal, donc je pense qu'on devrait peut-être plutôt que Noah de Lémon, on devrait le baptiser Noah Rosmaison, peut-être, pour l'ego, ça ferait peut-être du bien. Mais on dit c'est une bonne chance, hein, Noah. Noah Rosmaison, hein, c'est mieux que le miracle d'Orvin.
Tu devais la placer, celle-là.
Ouais, je vais la placer.
Eh bien, merci, Laurent. Il ne reste plus que quelques minutes. On passe à un peu de divertissement.
Dernière tournée.
On finit cet épisode avec un concours et un quiz. Étape 1, le concours. On fait gagner 2 écharpes du HC Bienne dédicacées à vous qui nous écoutez jusqu'au bout de cet épisode. Pour participer, c'est assez simple. Vous allez sur la dernière publication de l'Hashtamtisch, soit sur Insta, soit sur Facebook, et vous commentez avec des cœurs rouges et jaunes, les couleurs du club. Et on fera un tirage au sort avec tous les commentaires cœurs rouges et jaunes. 2 écharpes en jeu qu'on fait gagner. Et le quiz, nouvelle génération, concocté par Cyril Pache. Ceux qui nous ont écoutés au dernier épisode, c'était Christophe Val qui choisissait le meilleur gardien pour gagner le titre. Et cette fois-ci, c'est Stéphanie Meria qui choisit le meilleur joueur du HC Bienne, ton joueur favori, Stéphanie. T'as toujours 2 possibilités. C'est un quiz concocté par Cyril. On y va avec le premier duel, Patrick Kane ou bien Tyler Seguin.
Je les aime tous, j'avais envie de dire. Allez, Kane,
okay.
Pour sa vision du jeu. J'ai choisi le jeu, pas le physique.
J'ai choisi
le joueur, pas le physique. Ouais.
Alors, Patrick Kane ou Rico Fata?
Fata.
Ok. Rico Fata ou Yanis Moser?
Moser, JJ, ah. Évidemment.
Yanis Moser ou bien Beat Forster?
JJ.
Yanis Moser ou...
JJ, non, je sais pas, vas-y.
Yanis Moser ou Martin Steinegger?
Non, JJ.
Ok.
Parce que c'est le futur.
Yanis Moser ou Mathieu Tchantré?
JJ toujours.
Yanis Moser ou Kevin Lutcher?
Ah, ça c'est dur. Ça c'est dur. Mais je reste sur JJ.
Ok. Yanis Moser ou bien Elliot Berton?
Mon petit Elliot. Mais ça restera JJ, je suis désolé. J'ai un vrai coup de cœur pour ce garçon.
Yanis Moser ou Tony Raiola?
JJ.
Ok, et je pense que la plus dure est pour la fin. Hein. Yanis Moser ou Beat Katarouza?
Ah, ça c'est de la vraie question. Ah, je serais obligé de dire Beat Katarouza sur ce coup-là. Évidemment. Désolé mon JJ si t'écoutes ça, mais...
Il a presque tout traversé.
Beat.
Il échoue au poteau.
Tout ça pour ça. Le HCB va très mal. Hein. La confirmation. Là.
Et c'est quand même Beat qui m'a amené au hockey. Je ne serais pas là sans Beat Katarouza. Donc
après,
il faut quand
bon.
Même rendre à César ce qui est à César.
Beat Katarouza ou Cyril Pache?
Non, Cyril Pache, c'était un ami d'enfance. Enfin, c'est toujours un ami de mon frère. Et on s'est connus quand il était pas encore en âge de signer des contrats pour le HC Bienne.
Donc Beat Katarouza, grand vainqueur. C'est bon, très bien, ça te convient, c'est ton quiz.
On devrait l'inviter.
Alors, écoute, c'est la conclusion que j'attendais en élaborant ce quiz.
Merci, Cyril.
Très orienté. Hein.
Quoi, je connais un petit peu Stéphanie quand même.
Ouais, apparemment. Eh bien, merci beaucoup, on arrive déjà au bout de cet épisode. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être venue pour la troisième fois à la Stammtisch.
C'est toujours un plaisir, et puis moi, j'aime toujours vos questions parce qu'elles me challengent un peu, ça me fait plaisir.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont envoyé plein de questions pour cet épisode. Très bonne saison à toutes et à tous. Merci Cyril, merci Laurent. On rappelle quand même le calendrier. Le prochain match, c'est à domicile. C'est vendredi, Bienne Zoug, dès 19h45 évidemment. On se retrouve dans 15 jours. On n'espère pas pour le bilan, mais pour parler des play-in. À très bientôt. Bye bye.
Ciao, bye bye.
Salut tout le monde.
Et surtout, venez au stade.
C'était la Stammtisch, toute l'actu du HC Bienne proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.